Comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'équipe de Priorité Santé vous retrouve à Port-au-Prince pour une nouvelle émission enregistrée ici, en Haïti. Ces derniers jours, nous avons parlé de la malnutrition, de l'impact de l'environnement sur la santé ou encore de la prise en charge de la drépanocytose. Avec nos invités, nous essayons de cerner les enjeux, de comprendre les besoins, les attentes et les espoirs des populations, mais aussi des soignants et des travailleurs communautaires. Ces Haïtiens que nous avons rencontrés, qui ont envie, qui ont besoin que les choses changent, besoin d'éducation, de travail, de soins de proximité pour beaucoup d'entre eux, passer d'une situation de survie à une situation de bien-être. Survie, le mot n'est pas exagéré pour ce pays plus exposé que tout autre sur la planète aux catastrophes naturelles. Haïti, où 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté, alors que près de la moitié des Haïtiens n'ont pas accès aux services de base, l'eau, la santé, l'éducation, l'électricité. Privations en matière de santé qui ont un prix, l'anémie, la vulnérabilité aux infections, pneumonie, diarrhée, VIH-Sida, tuberculose, IST, choléra ou maladies parasitaires. D'immenses besoins, une offre de soins plutôt limitée, près d'un millier d'institutions sanitaires et une centaine d'hôpitaux au total, pénurie également de professionnels de santé essentiels, un peu plus de 6 pour 10 000 habitants, très loin des 25 recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Fossé entre les ressources aussi et les besoins, mais nous verrons au cours de cette émission que des initiatives existent pour éclairer ce sombre tableau, des projets qui certes ne constituent pas des solutions à elles seules, mais contribuent à petite échelle à apporter des réponses ponctuelles face à l'immense défi de la reconstruction du système de santé haïtien. Les défis en matière de santé en Haïti, une émission réalisée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Et avec nous, docteur Adrien Lauré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur Lauré, directeur général du ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti, gynécologue, obstétricien de formation et de profession. Besoin très important en matière d'infrastructures, de personnel, d'accessibilité, d'information, avec certains pans de la médecine, certaines spécialités où tout presque reste à faire. C'est le cas en matière de santé mentale ici en Haïti. Et c'est ce que nous verrons avec Nathalie Kouakou. Elle est psychologue clinicienne. Nous l'avons rencontrée ici à Port-au-Prince. Nathalie Kouakou, qui est membre fondatrice de l'association Initiative pour la santé mentale. Débat donc pour l'illustrer, deux reportages que nous avons réalisés à Port-au-Prince ces derniers jours. Nous nous rendrons donc dans le service des centres médicaux et de recherche GESCIO, qui se consacre à la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Et puis nous parlerons aussi santé bucco-dentaire, secteur où les besoins sont immenses, au travers des activités de la Fondation Max Cadet dans sa clinique du quartier de Canapé Vert.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Adrien Lauré, pour préparer cette émission, je me suis plongée dans le dernier rapport publié par votre ministère. Il date d'octobre dernier, octobre 2018. Un état des lieux assez complet, une photographie de la situation sanitaire ici en Haïti. Monsieur, comment est-ce que vous décrivez cette photographie ? Plutôt sombre ou plutôt contrastée ?
Merci, Madame Paré. Donc, je dis bonjour aux auditrices et auditeurs de RFI, une radio qu'on écoute partout dans le monde, particulièrement ici en Haïti. Effectivement, l'enquête EMUS, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, a été publiée récemment en octobre. Cette enquête nous donne une sorte de vue panoramique de la situation générale sanitaire du pays. Il y a par exemple la faible couverture vaccinale, il y a le taux de mortalité maternelle qui ne baisse pas à la satisfaction des autorités. On doit être honnête et constater qu'il n'y a pas eu d'énormes progrès par rapport à la dernière parution. Mais tout ceci a une explication. Donc Haïti, comme vous l'avez dit dans l'introduction, est un pays qui est exposé énormément aux catastrophes naturelles. Donc très récemment, on a encore été frappé par un tremblement de terre. Nous parlons octobre 2018. Et les difficultés qu'on a à nous relever, particulièrement à remettre sur pied un système de santé fonctionnel, un système de santé qui marche, beaucoup de ces problèmes-là ont aussi leur origine dans cette catastrophe que nous avons connue en janvier 2010. Ceci dit, il y a eu beaucoup d'efforts, malheureusement pas assez, et au niveau du ministère, nous continuons encore chaque jour à déployer plus d'efforts, mais les choses étant ce qu'elles sont, la situation n'est pas tout à fait rose.
Les choses étant ce qu'elles sont, parmi justement ces indicateurs, vous comparez avec les années précédentes, le budget du ministère de la Santé, il est en baisse. Comment est-ce qu'on l'explique?
Le budget du ministère de la Santé, il était en baisse par rapport aux années précédentes, oui. Et ceci a été une grave préoccupation. Le ministère a demandé un budget qui serait un petit peu plus proche de ce que ça devrait être pour les pays à faible revenu.
On est loin de ce qu'attend notamment l'OMS en matière de budget de santé. On attend aux alentours, en tout cas, que ça dépasse les 10%. Là, vous êtes largement en dessous des 5%.
L'idéal, effectivement, c'est que ça dépasserait les 10%. On a demandé un budget de 12% qui a été revu à la baisse pour être amené à 7%. Cette année, mais malheureusement, ce budget n'a pas été voté ou ne l'est pas encore et a été retourné à l'exécutif pour replâtrage.
Mais on va pas non plus faire semblant qu'il ne se passe rien à l'extérieur de ces murs. On voit qu'il y a une grogne sociale, il y a une véritable attente de la part de la population. Peut-être aussi que la population, parmi les besoins primaires, les priorités des priorités, c'est justement une meilleure santé, c'est une meilleure santé pour les enfants, c'est avoir de l'eau courante, c'est avoir des routes, avoir de l'électricité. On a du mal à comprendre pourquoi on peut sacrifier le budget de la santé par rapport à d'autres. C'est quand même avec l'éducation la priorité absolue.
Je ne sais pas si on sacrifie le budget de la santé par rapport à d'autres. Ça, c'est vous qui le dites, mais moi, je ne dirais pas. Parce que si on dit qu'on a sacrifié, ce serait un choix délibéré des responsables de ne pas privilégier la santé. Je ne pense pas que ce soit ni la vision, ni le vœu du gouvernement. Mais je pense que au plus haut niveau de l'État, je vous assure de la sincérité des autorités que tout le monde est conscient qu'il faut un meilleur traitement pour la santé. Maintenant, le budget, c'est aussi la réflexion des capacités à financer du pays. Quand vous regardez le coût de la santé en Haïti, vous voyez que l'argent public ne représente qu'environ 10% du coût. Quand on enlève les 50-55% de la communauté internationale, environ 30 à 35% c'est payé par les ménages. Donc, ce sont des ménages qui financent déjà leur santé. Maintenant, comment demander à ceux qui financent déjà leur santé de contribuer encore
davantage,
plus, etc. Donc, tout ceci n'est pas un exercice facile, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes.
On va regarder justement certains des indicateurs qui étaient dans ce fameux rapport, très instructif. Et on peut voir justement les maladies les plus fréquentes, docteur Adrien Lauré. On va prendre le trio de tête de ces pathologies. Infection respiratoire aiguë, hypertension artérielle. Et en troisième place, les IST. Est-ce que ce tableau change? Est-ce qu'aujourd'hui, les maladies haïtiennes ont changé par rapport, par exemple, à il y a une dizaine d'années?
Je ne dirais pas que les maladies ont changé. Je dirais plutôt que, contrairement à certains pays qui ont vécu ce qu'on appelle leur transition épidémiologique, c'est-à-dire ils sont arrivés au stade de maîtrise presque absolue des maladies infectieuses transmissibles, et que maintenant ils mettent plus l'emphase et leur énergie sur la prise en charge et la prévention des maladies non transmissibles,
comme les maladies cardiaques,
les maladies cardiaques,
le diabète,
cancers, l'hypertension, le cancer, etc. Mais nous en Haïti, on a ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire qu'on est en train de faire face non seulement aux maladies infectieuses et transmissibles, comme vous avez vu, mais aussi on a une émergence des maladies non transmissibles qui aussi touchent malheureusement la force productive et la force vive de la nation. Parce que quand vous avez une jeune de 40 ans qui, pour la plupart des cas, était la seule force qui apporte à manger
dans la famille,
et qui vous fait un accident cérébrovasculaire par suite d'une hypertension artérielle méconnue ou bien mal soignée, donc vous comprenez le drame, non seulement un drame familial, mais presque un drame social et voire même un drame national, parce que la lutte contre la pauvreté passe aussi par le maintien des gens en bonne santé, surtout les gens qui peuvent encore produire pour l'économie.
Du côté du choléra, ces dernières années, il y a une tendance rassurante, c'est que ça va vraiment mieux. Le nombre de cas d'une année à l'autre a été plus que divisé par 3. Donc aujourd'hui, les autorités, docteur Adrien Lauré, peuvent raisonnablement penser que d'ici quelques années, on pourra avoir tourné cette page-là.
C'est le vœu de tout le monde, d'ici quelques années, de tourner cette page-là. Mais il y a une chose que les gens doivent garder à l'esprit aussi. Dans une course, les derniers kilomètres sont aussi importants. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, et qu'il y aurait, par exemple, une résurgence, n'importe quelle flambée dans une zone qui n'est pas bien contrôlée, on risque de se retrouver, sinon au point zéro, du moins à encore avoir à faire face à une épidémie importante de choléra.
Donc, rester vigilant, c'est quoi le message dans ce cas-là qu'il faut faire passer?
Le message, c'est qu'il faut rester vigilant. Il faut que les gens pensent d'abord à protéger leur santé, c'est-à-dire... hygiène.
Faire bouillir l'eau, par exemple, quand on n'a pas accès à une eau propre.
Quand on n'a pas accès à une eau propre. Mais il faut surtout que les gens pensent investir différemment dans la lutte ou dans la prise en charge contre le choléra. Les activités que l'on appelle le WASH, c'est-à-dire eau et assainissement, devraient être priorisées. Et il nous faut aussi, au niveau du secteur santé, aller vers ce que nous appelons l'intégration. Parce que le choléra, c'est d'abord une diarrhée. Mm-hmm. C'est une diarrhée spécifique, mais c'est d'abord une diarrhée. Donc, il nous faut aussi renforcer nos institutions, surtout en mettant dans des communes où il n'y a aucune structure sanitaire, donc en mettant ces centres de santé communautaires-là pour prendre en charge la santé de la population. Et nous parlons d'environ 122 à 125 communes où il n'y a aucune infrastructure sanitaire.
Aujourd'hui, est-ce que votre ministère s'est fixé des priorités en termes, par exemple, pour mettre l'emphase sur certains programmes ciblés, docteur Adrien Lauré? On parlait tout à l'heure de ces points des structures médicales avancées, en milieu rural par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça qui sont prioritaires pour vos services?
Je dis à l'entrée de l'émission que on agit constamment dans la priorisation, mais au niveau du ministère actuellement, on conduit le programme justement qu'on appelle la caravane sur la prise en charge et le dépistage des maladies non transmissibles, pour aller non seulement faire la sensibilisation, mais on profite aussi pour faire le dépistage, le traitement et la référence des cas et la réorganisation de la prise en charge des urgences. À ce niveau, je peux dire ces deux grands chantiers-là, les maladies non transmissibles, la prise en charge des urgences, hormis les problèmes de santé au quotidien auxquels font toujours face malheureusement la population haïtienne.
Est-ce que vous avez l'impression que certaines spécialités sont particulièrement sous-dotées?
Évidemment. Il y a même des spécialités qui sont pratiquement inexistantes.
Docteur Adrien Lauré, que dire de la santé mentale?
C'est le grand oublié du système. Mais vous allez comprendre aussi, la réalité est telle que même les pathologies de base courantes qu'on rencontre quotidiennement, on n'arrive pas à satisfaire leur prise en charge à 100%. Donc effectivement, la santé mentale a été négligée à un certain moment.
Docteur Adrien Lauré, on va vous retrouver dans quelques instants dans Priorité Santé.
RFI.
Et comme je l'annonçais tout à l'heure, en commençant l'émission, tout de suite, un coup de projecteur sur une discipline, une spécialité médicale qui est quelque peu délaissée ici en Haïti. On va en parler avec vous, Nathalie Kouakou, bonjour.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes psychologue clinicienne, membre fondatrice de l'association Initiative pour la santé mentale. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit état des lieux. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, la prise en charge psychiatrique, la santé mentale dans un pays comme Haïti?
Eh bien, dans un pays comme Haïti, comme disait l'OMS, un pays à faible revenu, 4 sur 5 personnes ne reçoivent pas l'accompagnement en santé mentale dont elles ont besoin. Et en Haïti, c'est très flagrant. Il y a très peu de professionnels spécialisés en santé mentale pour répondre aux besoins d'une population de 11 millions d'habitants. Peu d'infrastructures aussi qui sont disponibles pour accueillir ces personnes. Et seulement 4% du budget national est alloué à la santé mentale. Et de ces 4%, à peu près 80% vont vers les salaires des personnes qui travaillent dans ces centres, ce qui veut dire qu'il reste peu d'argent pour l'accompagnement, les soins, voilà.
Alors Nathalie Kouakou, est-ce que vous diriez que il y a une spécificité des besoins en santé mentale ici en Haïti, compte tenu, quand on est ici quelques jours, on entend beaucoup cette expression, le contexte haïtien? Est-ce que parce que la vie est particulière, on parle des problèmes d'ordre naturel, le climat, les conséquences bien sûr de la grande catastrophe du séisme, est-ce que tout cela donne un profil particulier aux besoins en santé mentale ici?
Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes une société qui a vécu des traumatismes multiples. Déjà l'histoire en elle-même, l'esclavage, la colonisation, ensuite, comme vous dites, toutes les catastrophes naturelles qui se sont succédées.
La violence politique avec la dictature.
La violence politique avec la dictature, l'instabilité politique aussi, la misère. 60% de la population vit avec moins de $2 par jour. Donc les besoins primaires, le fait de se nourrir, de se loger, ne sont pas couverts. Donc il y a une grande souffrance, une grande détresse psychologique liée à tous ces problèmes.
Vous disiez tout à l'heure peu de ressources en termes de personnel, peu de spécialistes, peu d'infrastructures. Alors, votre association s'occupe de santé mentale. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire ces activités, initiatives pour la santé mentale? C'est donc le nom de cette association.
Oui, tout à fait. En fait, le sigle répond à un nom en créole qui est Initiative Santé Mentale Haïti. Donc, Initiative Haïtienne pour la Santé Mentale. C'est une association qui a été créée en 2017, autour du 10 octobre, qui est la journée mondiale pour la santé mentale. À l'initiative de Yannick Lahens, je dois dire, qui est écrivaine et qui, comme beaucoup d'entre nous, a un proche qui souffre de maladie mentale, donc qui a été un peu l'instigatrice de ce mouvement.
Et votre priorité, est-ce que c'est davantage un plaidoyer de sensibiliser les pouvoirs publics, l'opinion sur ces questions, ou des choses plus matérielles? Avoir plus de moyens, avoir plus de professionnels, une meilleure formation, et aussi tout le travail sur, on pourrait dire, les mentalités et les fausses croyances. Vous agissez sur tous ces pans, justement, de l'approche des maladies mentales?
Oui, tout à fait. Je pourrais dire que on a plusieurs objectifs. Notre but ultime, c'est vraiment l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies mentales et de leurs proches. Mais nous avons parmi nos objectifs spécifiques, il y a effectivement le plaidoyer auprès des instances publiques, des décideurs, des politiques, pour qu'il y ait plus d'infrastructures, de services mis en place au service de la population. Mais nos trois domaines clés, je dirais, c'est la sensibilisation de la population pour combattre la stigmatisation, les tabous liés à la maladie mentale. Il y a l'aspect formation, éducation. Et notre troisième axe, merci, c'est les soins. Mais nous souhaiterions mettre en place une ligne téléphonique d'urgence où les gens qui sont confrontés à ces problématiques pourraient appeler et avoir des informations, être orientés vers le peu de services qui existent. Aussi, nous aimerions mettre une clinique mobile qui pourrait offrir ces soins
en dehors de Port-au-Prince. Alors justement, tout à l'heure, vous pointiez la sensibilisation, la prévention. Cela passe aussi, Nathalie Kouakou, par la communication, comme avec un film que vous avez produit et qui a été relayé par plusieurs médias. On va entendre, si vous le voulez bien, un court extrait.
Je m'appelle Lara, j'ai 45 ans et je suis bipolaire 2. C'est une maladie qui est difficile à vivre parce qu'on n'est pas souvent compris. Les phases de la bipolarité sont soit la dépression, soit un état hypomanique dans mon cas. Mais le pire que je vis pour moi, c'est la dépression. Avec la maladie mentale qui ne se voit pas nécessairement parce qu'on n'a pas du sang qui sort de notre corps, on n'a pas un bras dans un plâtre, c'est très difficile pour nous de le vivre et pour l'entourage de répondre. La dépression, c'est vraiment les ténèbres et le noir. Il n'y a plus d'espoir. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue.
Alors, cette femme qui s'exprime, juste pour un petit peu comprendre, de quoi s'agit-il précisément?
En fait, nous sommes un groupe hétérogène composé à la fois de professionnels de la santé mentale, mais de personnes aussi atteintes de maladies mentales, dont cette personne qui parle, qui est Lara Ellie, qui est membre de l'association.
Et on entend justement dans cette manière de s'exprimer à quel point elle maîtrise à la fois la description de ce qu'elle vit et à la fois la douleur de ce qu'elle ressent. C'est vraiment, elle est capable de dire ce que peu de gens ont la possibilité de faire, à savoir exprimer leurs souffrances et leurs besoins en santé mentale.
Tout à fait. Quand elle s'est proposée pour faire ce témoignage, nous étions vraiment ravis parce que, comme vous dites, elle s'exprime très très bien et elle arrive à communiquer cette souffrance qui l'habite et que d'autres personnes n'ont pas la possibilité d'exprimer.
Et quel écho a eu ce film, justement, entendre comme ça des personnes directement concernées? On le disait tout à l'heure, il a été relayé par des médias. Nathalie Kouakou, est-ce que vous avez été étonnée par les réactions?
Oui, les réactions nous ont étonnés. Il y a eu souvent des personnes qui, à l'occasion de la visualisation de ce film, ont pu partager avec nous les problèmes qu'eux-mêmes, ils confrontent dans leur famille.
Ils ont reconnu des cas, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait, et là, ils ont mis des mots sur ce qu'ils voyaient.
Tout à fait. Et souvent ici en Haïti, on attribue des causes surnaturelles à la maladie mentale. Donc soit la personne, soit elle possède un don de vision pour expliquer les hallucinations, ou alors elle est persécutée, comme on dit ici, on lui a envoyé un sort, et ce qui explique ses réactions. On essaie de donner un sens à ce qu'on voit et qu'on ne comprend pas, et on ne sait pas comment réagir.
On ne sait pas comment réagir, ou est-ce qu'il y a justement des méthodes de résolution qui sont justement directement liées à ces croyances, à cette culture, qui font que, au lieu que les personnes se dirigent vers des structures de soins qui sont de toute façon rares, voire inexistantes, elles vont vers des praticiens traditionnels, vers une sorte de prise en charge en fonction des cultes locaux, et qui peuvent déboucher sur certains problèmes pour les patients. Par exemple avec des maltraitances ou des actes de violence.
Comme vous dites, quand les personnes sont identifiées comme ayant subi un sort, elles sont parfois amenées vers des sorciers, enfin les Boko, bien les Ougans qui sont les prêtres vaudous, parce qu'il y a les deux aspects.
Alors si aussi ces pratiques perdurent, c'est face peut-être au manque de réponse de la part d'une médecine digne de ce nom. Je soulignais tout à l'heure le manque en matière de psychiatrie, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres spécialités ici en Haïti. Est-ce que Nathalie Kouakou, dans ce cas-là, il faut vraiment insister sur les ressources communautaires? Qu'est-ce que peut apporter l'entourage, le village, la communauté, quand justement les structures publiques ne sont pas à la hauteur?
Je pense que les gens ont recours aux tradis praticiens parce que, comme vous dites, il y a un vide institutionnel et parfois une difficulté d'accès économique aussi à ces soins-là, même si bon, il y a des traitements parfois violents, mais peut-être le soutien à la famille est beaucoup plus...
Correspond davantage
aux besoins que dans une structure de soins moderne où les rapports sont parfois froids, distants. Et nous, notre idée, c'est de travailler avec la communauté, mais également avec ces personnes clés qui sont les tradis praticiens. Et peut-être, pourquoi pas, avoir les deux aspects, pouvoir allier la médecine traditionnelle et la médecine moderne.
Et la médecine moderne. Alors, prise en charge des pathologies également, prise en charge des traumatismes, avec un exemple précis tout de suite, c'est l'action menée dans les centre Geschio, où il y a un service de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles.
Priorité santé sur RFI.
Sur la porte du local, un panneau sur lequel on peut lire « Santé reproductive, microcrédit ». À l'intérieur, trois femmes, assises sur des chaises, attendent en silence. L'une d'elles a le visage tuméfié. L'unité de prise en charge des violences sexuelles a ouvert ses portes en juin 2000 sur ce site des centres Geschio en plein cœur de Port-au-Prince. Sur place, l'équipe est constituée de 4 personnes, médecin, assistant social, agent de terrain et la psychologue Marie-Ignie Christophe.
Quand la personne arrive au bureau, on offre à cette personne-là un espace sécurisant avec confidentialité et on met la personne suffisamment à l'aise pour que la personne puisse s'ouvrir à nous, parce que ça peut arriver que la personne arrive pour la première fois et n'est pas disposée à s'exprimer, à s'extérioriser. On ne bouscule pas cette personne-là. Comment les personnes arrivent ici? Il y en a qui viennent de par eux-mêmes grâce à la sensibilisation. Il y en a qui nous sont référés par d'autres institutions qui n'offrent pas ce service-là. Il y en a qui viennent de par la police directement. Et puis, il y a les groupes d'organisations féminines qui donnent un certain prise en charge également, soit sociale, à ces femmes-là. Donc, qui nous les réfèrent, ces gens-là. Donc, ils nous viennent de partout.
Ils viennent pourquoi? Ils viennent pour soigner leur corps, ils viennent pour se faire dépister. Est-ce qu'ils savent que derrière toute cette prise en charge du corps, il va y avoir aussi un moment de parole? Est-ce qu'ils en ont conscience?
Bien sûr. D'ailleurs, au centre Geschio, dès que la personne arrive, ce qu'on lui offre d'abord, on fait une prise en charge avec la personne, ce qu'on appelle le counseling pretest, pour faire comprendre à la personne ce qui lui est arrivé. Et voilà ce qu'on lui offre, voilà ce qu'on va faire pour elle. On explique à la personne son parcours.
Prise en charge médicale globale, de l'accueil au dépistage, Dr Vanessa Rousier, infectiologue et pédiatre au Geschio.
La prise en charge médicale consiste
dans le témoignage de la personne. Parce que le document que le médecin remplit est un document médico-légal qui va être utilisé par la justice si la personne choisit de faire une poursuite judiciaire. Donc, c'est très important vraiment de documenter le témoignage de la personne tel qu'il l'est dit sans essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Et après la déclaration de la personne, c'est vraiment l'examen physique de la personne pour documenter s'il y a des blessures associées pour les enfants, notamment si on peut voir évidence de blessures, de viols et de perforations au niveau de l'hymen du vagin ou chez les petits garçons d'autres blessures. Ensuite, il y a un bilan médical qui est fait pour le VIH et la syphilis, mais c'est important d'expliquer à la personne que ce bilan va seulement documenter si la personne avait déjà une infection, parce qu'une nouvelle infection ne serait pas encore installée. Alors, il faut noter que la prise en charge, on la recommande dans les 72 heures afin de pouvoir implémenter la prévention si la personne aurait été exposée au VIH et à la syphilis notamment.
Parmi les victimes reçues cet après-midi, cette jeune femme âgée d'une trentaine d'années. Elle explique dans quelles circonstances elle a été amenée à venir consulter au GESCIO. Le docteur Rousier traduit ses paroles.
Je me dis, mais salut. Ça fait me venir jeudi.
Alors, bonjour, merci. Alors, je suis venue au sein de GESCIO parce que j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé. C'était un dimanche, au début de janvier, le 2 janvier, où j'avais appelé une de mes amies pour qu'on puisse se rencontrer. Et elle m'a invitée à venir la rejoindre où est-ce qu'elle était. Elle était à la piscine avec ses amis. Et quand j'ai été la rejoindre, elle était avec son copain et il y avait 6 autres hommes qui étaient présents, qu'on m'a présentés comme des amis. Et on est resté ensemble à la piscine un moment et à la fin de la journée, ils m'ont accompagné chez moi. On a déposé mon amie d'abord chez elle et ensuite, ces hommes-là m'ont ramené chez moi. Et quand je suis arrivée devant la porte, j'ai dit merci beaucoup, mais ils ont insisté pour m'accompagner à l'intérieur. Et une fois arrivée à l'intérieur, ils ont fermé la porte. Ils sont tous rentrés, ils m'ont mis la main au cou et ils ont sorti des armes à feu et ils m'ont dit que si je faisais du bruit, qu'ils allaient me tuer.
Avec sa main à main, ils ont dit, depuis me faire bruit, ils ont tué. De préférence, moi, j'étais silence.
Tous ces hommes vous ont agressé?
J'étais trois.
Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils sont partis? Ils vous ont laissé comme ça chez vous, brutalisés, abîmés?
Oui.
Est-ce que vous aviez des douleurs physiques? Est-ce que vous étiez blessée?
Moi, pas blessée physiquement, mais moralement, moi, blessée parce que moi, pas chame à l'aise, moi, toujours à prier. Tout ça.
Alors, je n'étais pas blessée physiquement, mais moralement, émotionnellement, je suis brisée et je n'arrête pas de pleurer.
Chaque mois, ce sont entre 30 et 40 personnes, femmes, enfants, hommes, qui sont prises en charge ici. Ce chiffre passe à 50 consultations lorsque le climat est plus tendu à Port-au-Prince, en contexte d'instabilité politique. Quelques semaines après son agression, la jeune femme est toujours dans l'attente des résultats du dépistage du VIH-Sida. Les entretiens avec la psychologue la soulagent, mais elle vit toujours dans la peur.
C'était très, très, très bien. Psychologue là, t'es pas allé avec.
Alors oui, la psychologue a vraiment été d'une aide utile et elle m'a parlé et c'est grâce à elle que maintenant j'arrive à me nourrir un petit peu parce qu'au début j'étais incapable de manger et vraiment la conversation avec la psychologue et même l'encouragement du médecin m'ont beaucoup aidé. Et je commence à aller mieux, mais je suis loin d'être encore normal.
Moralement, beaucoup fin bonnet. Par contre, quand j'ai tellement vu une peur, n'importe chaque fois à peine à calant, moi,
je suis traumatisée, je vis dans la peur depuis lors. Dès qu'il y a un bruit à la maison, je sursaute, j'ai peur. Quel que soit le bruit dans la maison, dans la rue, et même mon fils à la maison me dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne sait pas ce que je ne lui ai pas raconté, mais il me voit dans tous mes états, tout le temps en train de pleurer, traumatisée. Et surtout, j'ai peur parce que j'ai fait des démarches au niveau de la police, une déclaration. Et par rapport à mon ami, ils savent que j'ai fait des démarches à la police et ils m'ont fait parvenir le message qu'une fois que je serai morte, tout sera fini.
Donc, je m'attends à des représailles.
Ça veut dire qu'on a fait notre chauffeur, moi, peur.
Un espace d'écoute et de parole, mais comment dépasser le traumatisme face aux menaces, à l'intimidation? Pour la psychologue Marie-Denis Christophe, le contexte haïtien n'est pas de nature à libérer la parole ni à rétablir un sentiment de sécurité pour les victimes.
Pour ne pas stigmatiser, parce que nous, en tant que professionnels, on connaît la chose, mais les gens, c'est encore tabou.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en termes de prévention qui aujourd'hui n'est pas fait?
Oui, je crois. Pour moi, je pense qu'il faut faire, il faut passer par les écoles. Pour moi, toutes les institutions comme l'école, l'église, là où il y a une foule de personnes, on peut utiliser ces institutions-là pour faire la prévention contre la violence sexuelle parce que tout le monde est concerné.
L'unité de prise en charge des violences sexuelles pour soigner, dépister, constater, écouter, une année de suivi et peut venir pour certaines femmes l'occasion de s'engager dans un projet différent pour se détourner de la douleur au travers d'ateliers, concevoir un projet, s'approprier un savoir-faire, fabriquer pour se reconstruire. Docteur Vanessa Rousier.
On a un programme particulier au GESCO où on avait le programme avec nos travailleuses commerciales du sexe qui étaient souvent victimes de violences elles-mêmes et qui cherchaient justement à se reconstruire et à sortir de ce cycle de violence où on a une formation vocationnelle pour les aider justement à redonner un autre objectif à leur vie et leur sortir. Et ça, vraiment, je pense que c'est l'aspect le plus récompensant du programme qu'on fait, c'est de voir la personne prendre en charge sa vie et se dire, ils m'ont violé, c'est vrai, ils m'ont écrasé, c'est vrai, mais je reprends le dessus de moi-même, je vais décider de ce que je vais faire, je ne vais pas me laisser victimiser.
Docteur Rousier du GESCO, détermination des soignants face à la détresse des victimes. Ce service, vous le connaissez bien, Nathalie Kouakou, on vous retrouve, psychologue clinicienne. Ces violences qui ont un impact très profond en termes traumatiques et qui peuvent déboucher, y compris, sur des véritables problèmes de santé mentale.
Oui, tout à fait. En fait, je connais bien Marie-Denis Christophe parce qu'elle m'a remplacée après mon départ. C'est, comme elle dit, un problème vraiment structurel aussi. C'est un peu la culture sexiste aussi.
On comprend l'action des militants, vous le dites, les activistes qui travaillent sur le terrain pour changer les choses. Vous, vous appartenez à une association, ça va être notre conclusion quand vous regardez vers l'avenir. C'est quoi vos projets concrets pour essayer d'améliorer la situation? Même si on l'a compris, Nathalie Kouakou, eh bien, les moyens manquent. Hein. Effectivement, dans tous les secteurs de la société haïtienne, les moyens manquent. Mais vous, vous voyez les choses comment pour améliorer la situation sur le plan justement de la santé mentale?
Moi, je crois beaucoup à la sensibilisation, au fait de pouvoir passer des messages. Et justement, un de nos outils les plus importants, c'est ce film dont vous avez diffusé un extrait. Et je pense qu'on peut faire bouger les choses grâce à la radio, grâce aux médias, questionner les mentalités, faire réfléchir, évoluer
les consciences. Merci beaucoup Nathalie Kouakou. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, membre fondatrice de l'association Initiative pour la santé mentale. Merci d'avoir répondu aux questions de RFI.
Merci à vous de m'avoir reçu.
On se retrouve dans Priorité Santé, ici à Port-au-Prince. Docteur Adrien Lauré, toujours avec nous, directeur général du ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti. On a parlé santé mentale, on a bien vu que d'autres secteurs de la santé sont plutôt démunis hein, face aux besoins de la population. Est-ce que vous diriez, par exemple, que c'est le soin aussi d'une spécialité qui est très concrète, mais absolument indispensable, par exemple, la santé bucco-dentaire?
La santé bucco-dentaire n'est pas bien représentée, je dirais, au niveau de la structure sanitaire du ministère, mais les dentistes haïtiens s'organisent. Je sais qu'il y a l'association haïtienne de médecine dentaire, donc qui fait un travail colossal. Je sais aussi que le doyen de la faculté d'odontologie est très impliqué dans l'amélioration de la prise en charge des maladies bucco-dentaires, donc amélioration de la santé bucco-dentaire. À côté de ça, je sais aussi qu'il y a de nombreuses associations caritatives, privées, lucratives ou privées, non lucratives, ou même des ONG, qui sont très impliquées dans la santé bucco-dentaire en Haïti.
Eh bien, tout de suite, illustration de ce que l'on vient de dire, puisque je vous propose d'écouter ce reportage, hein, reportage que nous avons réalisé ici à Port-au-Prince. On prend maintenant la direction de la clinique dentaire de la Fondation Max Cadet.
Priorité santé sur RFI. Reims, 89.3 FM.
C'est dans le quartier de Canapé Vert que la Fondation Max Cadet a déménagé sa clinique dentaire après le tremblement de terre qui a ravagé Port-au-Prince. Un lourd portail, des bancs sous un auvent, au plafond, les pales des ventilateurs Brasler. Chaque jour ici, ce sont une centaine de patients qui sont en moyenne pris en charge. Et la Fondation, comme la clinique, c'est une histoire de famille. Geneviève Cadet, directrice et responsable du projet, fille de Max Cadet.
Nous avons vu notre père vraiment développer les soins dentaires un peu partout. Quand je dis un peu partout, parce qu'il partait dans les montagnes pour aller apporter les soins à la population. La fondation pédodontique qui formait les étudiants, il en a fait partie. Et puis, il pensait aussi que les soins dentaires en Haïti étaient des soins plutôt d'urgence, mais pas de prévention. Alors, il a initié un programme où il allait dans les écoles pour donner des soins. Les soins les plus difficiles et les plus avancés étaient donnés en clinique. Alors, nous avons calqué sur sa vie pour créer cette institution-là.
Avec ses 27 000 consultations en 2018, la Fondation Max Cadet est aujourd'hui le premier dispensateur de soins dentaires en Haïti. Et les locaux de la clinique de Canapé Vert sont un peu particuliers. Geneviève Cadet nous explique pourquoi.
Les conteneurs nous ont été donnés après le tremblement de terre parce qu'on avait commencé sous tente. Parce que les patients nous réclamaient tellement. Et à ce moment-là, les structures ne faisaient pas confiance, alors on ne savait pas où aller vraiment. Mais comme on cotisait cet espace-là bien avant le tremblement de terre, alors on a commencé sous tente, mais il y a eu un typhon. Alors les tentes ont été détruites. Finalement, on a dit qu'il fallait trouver quelque chose de beaucoup plus solide. Alors c'est à ce moment-là qu'on a reçu ces deux conteneurs. Souvent, quand vous allez au bord de mer, on vend des conteneurs de dernière occasion. Alors là, c'était des conteneurs de dernière occasion. C'est sûr que pour nous, là maintenant, en attendant qu'on arrive vraiment dans une étape où on peut construire en dur et construire une clinique, je pense que c'est la meilleure façon de le faire.
Le personnel est composé de 37 personnes, parmi elles 14 chirurgiens dentistes et 10 assistants auxquels s'ajoutent hygiéniste, agent administratif et technique. Chaque bâtiment de la clinique est dédié à une activité particulière. Locaux techniques pour la stérilisation des instruments et le stockage de l'eau purifiée. Espace d'accueil, espace administratif. Et dans une imposante remorque blanche décorée au logo des contributeurs internationaux, la clinique mobile. Elle est stationnée actuellement, ce qui permet d'exploiter deux fauteuils dentaires supplémentaires.
Là, nous avons 10 sièges. Et ces sièges sont des dons qui viennent ou bien de la France ou bien des États-Unis. Mais ce que nous avons là, en grande partie, viennent des États-Unis. Des dentistes qui vont à la retraite et qui nous font passer leur matériel. Mais nous avons eu quand même la chance de recevoir un matériel de qualité. Parce qu'il y a un technicien qui travaillait avec moi quand je vivais aux États-Unis. Alors lui, il regardait le matériel d'abord, il faisait un entretien d'abord. S'il pense que c'est quelque chose qui peut durer, il nous le donnait.
Dans l'un des conteneurs réaménagés, soins d'entretien et interventions d'urgence pour réparer parfois les mâchoires traumatisées par des charlatans. Traitement effectué bien évidemment sous anesthésie, calot et blouse bleue, le docteur Bénédicte Larose, directeur médical de la Fondation, s'apprête à effectuer une restauration.
Maintenant, le problème, c'est qu'ici, on reçoit beaucoup de personnes. Donc, à ce moment, on utilise des stratégies pour voir le maximum de personnes possible. Dans son cas, par exemple, il n'est pas le seul patient à être déjà anesthésié. Parce que, vu le volume, il faut quand même utiliser une stratégie pour voir le maximum de personnes. Donc, c'est pourquoi on fait, par exemple, des anesthésies en série. Et après, on donne le soin nécessaire au patient.
Le patient est déjà en position allongée sur le fauteuil. L'assistante épaule le chirurgien dentiste et installe l'aspirateur dans la bouche du patient. Un autre local est dédié à la fabrication et à l'ajustage des prothèses. Dans le laboratoire, la prothésiste dentaire Ketsia Gerisma.
On reçoit des patients ici et en plus on prend les empreintes pour les couler. Et après, on vient pour faire le montage sur la table. Et ensuite, on donne des rendez-vous et les patients viennent pour qu'on les pose les prothèses.
Ça, c'est un appareil
en nickel chrome qu'on envoie au laboratoire. Ensuite, on nous le renvoie pour qu'on fasse le montage et après, on va donner pour faire la cuisson.
Ça veut dire que là, vous êtes en train de préparer ce qu'on appelle communément un dentier.
Oui, bah, bien sûr, ça c'est pour le montage. Ici, on fait le montage, mais après, je vais renvoyer derrière pour faire la cuisson.
Moulage et avant l'essayage et la cuisson, le polissage. Geneviève Cadet.
On a essayé la prothèse. Tout va bien pour le patient. Le patient est confortable. Alors maintenant, il faut polir la prothèse pour que les dents soient très lisses, parce que le patient doit avoir cette sensation de naturel dans sa bouche. Alors là, on est en train de polir avec la machine et puis ce rouleau-là qu'on utilise pour vraiment rendre la prothèse le plus naturel que possible dans la bouche du patient.
Des prothèses qui ont un coût d'environ 45 euros.
Les coûts pratiqués ici à la Fondation sont à peu près un tiers de ce qui est pratiqué en privé. Parce que nous ne croyons pas vraiment dans la gratuité. Nous pensons que quand le patient participe au travail, c'est beaucoup mieux apprécié. Alors, pour faire une prothèse de cette valeur-là, ça coûte à peu près 4000 gouttes. Et c'est un prix que le patient paie au fur et à mesure. On n'exige pas que le patient donne tout l'argent parce qu'il y a des étapes à suivre. Alors à chaque étape, le patient peut apporter une portion de ce montant-là. Parce que le coût des soins dentaires sont très élevés et pour arriver à subvenir à nos besoins, ce n'est pas toujours facile. On peut, en général, avec les honoraires des patients, gérer la clinique en termes de paiement des employés. Mais le salaire, des fois, on n'arrive pas à boucler le mois. Le personnel de soutien reçoit son salaire d'ordinaire à la fin du mois, mais les médecins, c'est toujours une semaine, deux semaines après. Ce n'est pas évident parce que le coût de faire fonctionner une clinique en Haïti, il y a trop qui rentre dedans. Il y a l'électricité, et même pour l'eau aussi. Des fois, l'eau de la ville ne vient pas. Il faut acheter de l'eau, il faut stocker l'eau. Alors, c'est tous ces coûts-là qui viennent parfois entraver.
Parmi les dizaines de patients en train d'attendre leur tour pour être soignés, nous rencontrons Jétro Saint-Ville.
Moi, je suis venu pour être capable de faire un nettoyage, les prophylaxies.
Je suis venu ici pour faire une sorte de nettoyage, comme on dit, une prophylaxie. J'ai des dents qui, malheureusement, ne tiennent plus.
Quand
j'étais très jeune, il paraît que j'ai eu un accident et j'ai perdu deux dents inférieures. Une de ces dents ne tient plus et comme tu sais, la nature a horreur du vide. Donc apparemment, ils vont être obligés de faire une abstraction.
La nature a horreur du vide, ils viennent un peu descendre. Je veux dire, pas une autre solution que c'est abstraction.
Est-ce que ça vous pose des problèmes quand vous mangez? Est-ce que ça vous fait mal?
Pour le moment, ça me donne deux petites douleurs. J'ai toujours eu peur d'une quand on me dit de m'allonger, ça me donne une psychose de peur que je n'arrive pas à m'en passer.
Dentisterie, chirurgie, orthodontie, parodontologie, 8 étudiants complètent leur formation sur place, alors qu'au niveau national, ce sont chaque année entre 15 et 20 étudiants qui sortent diplômés de la faculté. Formation médicale et éducation, programme de prévention, la Fondation Max Cadet délivre aussi un message de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire au travers de campagnes de prévention dispensées dans le cadre scolaire, mais aussi directement ici, à la clinique. Geneviève Cadet.
Avec les assistants, on arrive quand même à former la population. Nous allons dans les écoles, nous commençons à un très jeune âge. On les fait avec la brosse à dents aussi. On les apprend comment brosser. Et après, bon, on donne des soins que nous espérons pourront rester un peu plus longtemps. C'est là le problème des cliniques mobiles. Quand nous allons, nous faisons la prévention. Mais nous espérons toujours que l'école ou bien l'institution, là où on était, pourrait quand même continuer avec le suivi. C'est pas toujours le cas. Parce que là, en Haïti, on a un problème d'eau. On a un problème d'alimentation. Des fois, les parents viennent ici, vous pouvez les voir donner n'importe quoi aux enfants. Nous sommes dans une situation où on envoie n'importe quoi en Haïti, surtout des dentifrices blanchissants, ceux qui sont vraiment très abrasifs pour les dents. La personne a tendance aussi à avoir des brosses dures C'est tout ça qu'il faut vraiment expliquer.
Geneviève Cadet de la Fondation Max Cadet. On poursuit notre échange dans Priorité Santé sur RFI avec vous, docteur Adrien Lauré, directeur général du ministère de la Santé publique. Alors, une question essentielle, hein, on le comprend depuis le début de cette émission, c'est celle des ressources humaines, docteur Adrien Lauré, avec de véritables compétences. On a vraiment rencontré des médecins d'excellent niveau. Mais lorsqu'on parle d'Haïti, on mentionne forcément la fuite des cerveaux, particulièrement dans ce secteur de la médecine. J'ai lu par exemple dans le quotidien le Nouvelliste que plus de 40% des médecins formés en Haïti partent travailler au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Est-ce que vous confirmez ce chiffre de 40%?
Je ne sais pas s'il est de 40%, de 30% ou de 50% ou de 45%.
Mais c'est trop.
Mais effectivement, il y a un volume assez substantiel de nos professionnels formés en Haïti et certaines fois dans le secteur public, c'est-à-dire ce sont des boursiers de l'État, qui, malheureusement, pour des raisons évidentes que nous pouvons aisément comprendre, ont fait le choix de laisser le pays ou bien d'aller chercher une meilleure vie ailleurs. Donc, d'où le problème pour nous de la rétention de nos ressources humaines. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas que la question de salaire. C'est-à-dire qu'il y a des chances que même si on triplait leur salaire, n'allait pas rester. Parce qu'il y a les conditions de travail aussi, il y a l'environnement de travail.
On arrive à la conclusion, le temps passe très vite. Je voudrais qu'on parle quand même d'un élément pilier de la prévention, docteur Adrien Lauré, la couverture vaccinale des enfants de 1 an, 2017, j'ai trouvé aussi bien sûr ce chiffre dans votre rapport, 50% en milieu urbain, mais c'est inférieur en milieu rural, 37%. Est-ce qu'on peut dire 37% seulement?
Je pense moi personnellement que la vaccination coûte trop cher la façon dont nous la faisons en Haïti.
Oui, mais là, 37%, c'est pas suffisant.
37%, c'est loin d'être suffisant et nous ne nous réjouissons pas du tout. On fait des efforts pour améliorer la couverture vaccinale, mais il faut savoir aussi que améliorer la couverture vaccinale veut dire trois choses. Un, avoir les vaccins. Deux, pouvoir les acheminer au point le plus reculé du pays et les conserver. Et c'est pour ça que on fait un travail énorme sur la chaîne de foie actuellement. Le ministère, avec l'appui de certains partenaires, est en train de remplacer l'ensemble des réfrigérateurs et les mettre au solaire, qui étaient à gaz ou à électricité. Maintenant, on les met au système solaire pour permettre la continuité d'avoir la chaîne de froid dans les différents points du pays.
C'est ma dernière question, docteur Adrien Lauré. Ça ne donne pas parfois envie de jeter l'éponge, de renoncer?
Je ne sais pas si ça donne envie de jeter l'éponge, mais ça fait réfléchir des fois. Et malgré les frustrations, malgré certaines fois les états d'âme, il nous faut nous armer de courage pour continuer. Parce que on ne peut pas non plus laisser la situation et croire que ça va changer un jour. Donc nous avons dit que c'est notre contribution au pays qui nous a tant donné. Si on peut faire une petite différence, ce serait déjà notre satisfaction personnelle.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé à cet échange à Port-au-Prince. Ici, émission réalisée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Merci, docteur Adrien Lauré. Je rappelle que vous êtes directeur général du ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti. Cette émission a été préparée par Ophélie Lassen avec Marc Ingtoff-Casimir, réalisée par Victor Hull, ici à Port-au-Prince. Demain, nous vous proposons un entretien portrait dans Priorité Santé pour conclure cette semaine haïtienne. Portrait du docteur Jean-William Pape, Bill Pape, comme on l'appelle ici, directeur cofondateur des centres Gessio, chercheur et médecin. Le prix de trésor national haïtien lui a même été décerné. Parcours et voie d'exception que nous retrouverons demain à 9h10 en temps universel.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.